Bonjour, heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle grande table. Qu'est-ce qui se joue depuis lundi à la frontière entre Israël et Gaza? Va-t-on assister à une nouvelle escalade de la violence? Il pointe la responsabilité américaine qui a brisé le consensus international sur le statut de Jérusalem en y transférant son ambassade. Correspondante pendant plus de 30 ans au Proche-Orient, le journaliste Charles Anderlin est aujourd'hui l'invité de la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, il est Orphée dans le plus célèbre opéra de Gluck, bientôt au Théâtre des Champs-Élysées et déjà en CD, chanteur à la tessiture rare, le contre-ténor Philippe Jaroussky est notre premier invité, à retrouver dans quelques minutes sur France Culture après les temps forts des dernières 24 heures au Festival de Cannes où nous attend Antoine Guillot.
La grande table. Olivia Gesbert.
Midi 3 sur France Culture. On ouvre cette grande table du jeudi avec votre journal de Cannes, Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Aujourd'hui, on quitte le réel pour la fiction animée, à commencer par celle du japonais Mamoru Hosoda, présentée hier à la Quinzaine. Extrait.
Kono natsu, Hosoda Mamoru kantoku, saishin saku. 甘えん坊の男の子、くんちゃん。くんちゃんが出会ったのは未来からやってきた妹、未来ちゃんでした。そして始まる小さなお兄ちゃんの不思議な大冒険。未来の未来。
Extrait de Mirai, Mirai, ma petite sœur, Antoine Guillot.
Oui, c'est une petite merveille qu'on a vue hier à la Quinzaine des réalisateurs. Mamoru Hosoda, c'est le nouveau jeune génie de l'animation japonaise. On lui doit Les Enfants Loups récemment ou Le Garçon et la Bête. C'est un cinéaste de la famille, du lien parent-enfant. Et ici, il va nous raconter une histoire toute simple. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il a 4 ans. Il vit avec ses parents dans une petite maison. Et puis, un jour, tout est chamboulé parce qu'arrive un nouvel arrivant. Et c'est un bébé, une petite fille, la fameuse petite sœur du titre. Et comme tous les petits enfants qui ont l'habitude d'être seuls avec ses parents, et bien jalousie, frustration, colère vont l'envahir. Ce qui est très beau dans ce film, c'est qu'on pénètre à l'intérieur de l'imaginaire d'un enfant puisqu'il va s'échapper dans un monde imaginaire qui est celui de son jardin pour essayer de trouver des solutions à cette colère. Mais ce qui est finalement le plus touchant, c'est le talent d'observateur de Mamoru Hosoda. Qu'est-ce que c'est que la démarche d'un petit enfant? Qu'est-ce que c'est qu'un rire de bébé? Qu'est-ce que c'est qu'une chute de vélo quand on essaye d'apprendre à en faire? Et c'est finalement par l'observation et la restitution du réel que ce film d'animation nous a bouleversé.
Alors, l'occasion peut-être d'aborder avec vous, Antoine Guillot, une autre tendance cette année du festival, toutes sélections confondues. 10 ans après Valse avec Bachir, l'utilisation de séquences animées dans le documentaire.
Oui, alors vous vous souvenez, Valse avec Bachir d'Harry Folman avait été présenté en compétition au Festival de Cannes, c'était en 2008, et il racontait les souvenirs d'un ami d'Harry Folman qui avait vécu la guerre du Liban, et on avait donc là encore une restitution du réel, même si elle était souvent très fantasmatique, par le documentaire. Ce qui est étonnant, c'est que cette année, toutes sélections confondues, on a vu 4 films qui utilisent des séquences documentaires à l'intérieur, d'animation à l'intérieur du documentaire, qui normalement ne doit se confronter qu'à l'image vraie, l'image du réel. Alors, c'est une utilisation un peu différente selon les cas. Il y a un film, par exemple, sur le procès de Nelson Mandela. Il se trouve que ce procès avait été enregistré, mais pas filmé. Alors, pour The State Against Mandela and the Others, qui a été présenté en séance spéciale, eh bien, toutes les scènes de procès seront restituées par de l'animation. Il y a aussi le problème de l'image manquante. C'est le cas de Stefano Savona, qui a présenté ce film bouleversant et très actuel, puisqu'il parle de l'opération Plomb durci à Gaza en 2009, Samouné Road, présenté à la Quinzaine des réalisateurs, et là pour expliquer et pour restituer aussi la vie des personnes avant qu'ils aient été massacrés, car c'était le cas, par l'armée israélienne, il va recourir là encore à l'animation. C'est une manière, il le dit, de faire revenir les morts, comme le dira Stefano Savona. Il y a un autre film, Crise de Suisse, où une jeune femme va filmer l'histoire de son cousin qui était parti couvrir un jour, il était journaliste, il est partie couvrir le conflit en ex-Yougoslavie. Elle n'avait que 10 ans et ayant enquêté, elle va restituer là encore ce qui s'était passé. Et on a encore un film qui là veut clairement toucher la jeunesse, donc il va adopter les codes du jeu vidéo dans sa représentation. Un film sur le journaliste écrivain polonais Richard Kapuscinski, Another Day of Life, qui permet aussi par l'animation de raconter la guerre civile angolaise. C'est donc une tendance lourde qu'on observe. Je pense que les orthodoxes du documentaire vont un peu tiquer, mais c'est tout à fait passionnant à observer.
Vous n'avez pas trouvé une petite comédie musicale pour notre invité Philippe Jarouski, qui s'essaye à tout en ce moment? Il a même chanté récemment avec Mathieu Chédid. Non.
Ah ben la comédie musicale, on l'a eu en tout début de festival. C'est le film de Kirill Serebrennikov, L'Étau, qui restitue le Leningrad Underground du début des années 80 avec le rock punk de l'époque, sauce moscovite rock. C'est tout à fait génial et c'est une comédie musicale en permanence. Donc voilà, on l'encourage à aller voir ce film.
Et même à y chanter peut-être dans une nouvelle version parce qu'il a un visage d'ange, mais il est extrêmement punk philique. Philippe Jarouski, notre invité. À demain. Non, je ne sais pas si bien dire. À demain. Antoine Guillot pour un nouveau journal de Cannes. Ce sera Veille de Palmarès, pronostic libre. On prendra peut-être les paris avec vous. Merci beaucoup. Orphée et Eurydice, créé au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction de Diego Fasolis, c'est mis en scène par le Canadien Robert Carsen. Ça débutera le 22 mai prochain, 6 représentations jusqu'au 2 juin, avant de rejoindre l'Opéra Royal de Versailles le 8 et le 10 du mois. Sur scène, notre invité retrouvera la soprano Patricia Petitbon. Extrait. Sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées et un disque qui paraît demain en duo, non pas avec Patricia Petitbon pour vous, Philippe Jarouski, mais avec Amanda Forsythe. Ici, Orphée pénètre ou tente de pénétrer les enfers en charmant les furies de son chant. Vous voilà donc avec nous. Vous n'êtes pas en enfer, mais dans un petit paradis, celui de France Culture, Philippe Jarouski, la voix d'Orphée. Bonjour.
Bonjour à
vous. Est-ce que c'est agréable de se glisser dans la peau d'Orphée?
Oui, c'est très agréable. J'avais déjà consacré un disque l'année dernière au mythe d'Orphée, toujours sous la baguette de Diego Fasolis. Là, c'était la première période baroque, on va dire, la création de l'opéra avec Monteverdi. Et on pourrait dire que ce disque, c'est aussi le deuxième tome d'un projet Orphée. Pourquoi c'est agréable d'être dans la peau d'Orphée? C'est que, justement, notamment dans cet opéra de Gluck, on appelle ça l'opéra de la réforme gluckiste, c'est-à-dire que Orphée, Gluck en avait un petit peu assez de, on va dire, de la virtuosité gratuite que pouvaient se permettre certains castrats du 18e et revient à l'essentiel, c'est-à-dire à l'essence, un équilibre parfait entre l'expression du texte et la musique. Et c'est pour ça que je trouve ce rôle très agréable à chanter, parce qu'il est, tout en délicatesse, il est tout en humanité. Et je trouve ce rôle passionnant. On pourrait imaginer des interprétations différentes tous les ans de ce rôle. Il y a aussi beaucoup de symbolique, beaucoup de choses qui sont abordées dans le thème d'Orphée, qui sont assez fascinantes.
Alors, une sorte d'épure et de simplicité ramenée ici par le compositeur allemand Christoph Gluck dans cette pièce, dans cette œuvre, chef-d'œuvre du genre. Hein, lorsque Monteverdi s'en empare, un des premiers opéras de l'opéra de l'histoire musicale présenté en 1607 à Mantoue, Gluck, vous le dites, va réformer, transformer cette œuvre 150 ans plus tard, y apporter sa patte. Est-ce que c'est agréable, mais est-ce que c'est pas aussi compliqué ou dur? Parce qu'on entend déjà dans cet extrait la force quand même dramatique de cette œuvre, hein, qui se balade ou qui conjugue l'amour à la mort, cette descente aux enfers d'Orphée, même s'il y a alchimie entre la musique et le théâtre, parce que c'est une pièce très expressive aussi. Est-ce que c'est un rôle qui est si facile à endosser?
Alors non, la difficulté du rôle, d'abord, c'est une mise à nu. Alors, je pense qu'on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait, c'est un extrait justement où Orphée charme les enfers avec juste sa lyre, qui est là ici interprétée par la harpe. C'est sur juste quelques notes, c'est quelque chose de très dépouillé, donc on peut pas trop se cacher derrière une forme de virtuosité notamment. Et il ne demande pas de choses spectaculaires, mais il demande de toucher les cœurs. Et c'était ce que faisait Orphée justement, toucher les cœurs. Il y a aussi une simplicité exigée aussi, c'est une révolution théâtrale, puisque le drame se resserre à 3 personnages plus un cœur. La durée aussi du spectacle est d'1h30, 1h40. Par rapport aux opéras de l'époque qui duraient en général plus de 3 heures, voire 4 heures. Et en même temps, ce que demande Gluck et le librettiste au personnage d'Orphée est très intense, parce que je ne quitte pas la scène une seule seconde. C'est vraiment une, qu'on appelle en anglais une journée. C'est vraiment un chemin, un parcours initiatique du personnage d'Orphée sur toute la durée du spectacle. Et ça, c'est un gros challenge.
Il y a comme une fragilité dans cette voix, dans la vôtre, Philippe Jarouski aussi. Quand vous parlez de mise à nu, on peut l'interpréter aussi dans ce son très particulier qui sort de votre voix. Écoutez ce que dit votre consoeur Patricia Petitbon sur ce travail de la voix par rapport à celui du corps.
Le corps, c'est quelque chose de très fragile. C'est à la fois la faiblesse et la force. La force, quand vous entrez sur scène et que oui, vous vous transformez en quelqu'un d'autre, vous allez diffuser une énergie particulière, un langage nouveau, celui de chanter. Mais la faiblesse, elle est que ben on est simplement humain. Et qu'il y a, des failles, quoi. Et vous pouvez être malade, vous pouvez un jour avoir un gros chagrin dans votre vie. Et tout est lié, et tout passe par la voix, voyez. C'est plus qu'un autre instrument. Parce que la voix, c'est le reflet de ce que vous êtes. C'est une chose qu'on ne peut pas dompter totalement.
Voilà, la voix, la sienne comme la vôtre, angélique, aérienne. Vous dites que vous avez vécu le chant comme une libération après la pratique plus technique du piano et du violon. La voix, c'est l'instrument pour vous le plus libérateur qui soit?
Ah oui, au départ, moi je me suis senti tout de suite très à l'aise. J'avais l'impression d'exprimer quelque chose de peut-être plus personnel, bien entendu, avec la voix. Quelque chose aussi on parle beaucoup de technique aux instruments, hein. Il faut être le plus virtuose possible. La voix, tout de suite, quand on démarre l'étude du chant, on vous parle justement beaucoup plus du corps. D'écouter, d'être à l'écoute de votre respiration, de vos sensations. Donc chanter au départ, ça fait du bien. Mais effectivement, comme le dit Patricia, quand on endosse, on va dire, le costume du professionnel du chant, il y a aussi des moments de doute. Nous, les chanteurs lyriques, on chante sans micro, donc une méforme, ça s'entend tout de suite beaucoup plus vite. Et c'est vrai que là, notamment là, en ce moment, les rythmes sont très intenses. Moi, je répète cet après-midi, on a la pré-générale demain, la générale du spectacle samedi. Et c'est une course de fond. S'il faut savoir gérer sa voix, marquer on appelle ça marquer, c'est-à-dire ne pas donner toute sa voix en permanence pour pouvoir arriver en forme au spectacle. Donc c'est aussi, il faut apprendre aussi comment gérer justement une répétition quand on fait un opéra et essayer de trouver un juste équilibre aussi entre la tension du corps, parce qu'on doit énormément se donner physiquement, et aussi une forme de liberté de la voix.
Je reviens au rapport entre la voix et le corps, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que cet opéra de Gluck, cette musique de Gluck a été souvent reprise par des chorégraphes. Encore récemment, à l'Opéra de Paris, on a pu voir une des versions dansées de Pina Bausch pour les adieux de Marie-Agnès Gillot. Vous comprenez pourquoi tant de chorégraphes s'intéressent à cet opéra? Est-ce que justement cette partition met le corps en jeu, en mouvement? Et la voix aussi, d'une manière toute particulière.
Cet opéra a été pensé pour la danse. Le choix de Robert Carsen, par contre, j'encourage les gens justement qui sont allés admirer cette merveilleuse chorégraphie de Pina Bausch, d'aller peut-être voir un tout autre spectacle, puisque là, on a resserré vraiment le drame sur la psychologie. Comme disait très bien justement Robert Carsen, la chorégraphie doit être un langage, le langage total de la mise en scène, ou pas. pas. Donc là, il n'y a pas du tout de danse. Et le décor est assez minimaliste puisqu'on est dans une... La scène s'ouvre sur une tombe creusée, à même la terre. Et l'opéra commence justement par l'enterrement, voilà, de manière très concrète, d'Eurydice. C'est assez émouvant. Moi, c'est la première fois que je travaille avec Robert Carsen, qui, bien entendu, est un des plus grands metteurs en scène d'opéra au monde et de théâtre. Je suis très, très heureux parce que, vous savez, quand on est un chanteur, on n'est pas un acteur, souvent, à la base. Moi, j'ai pas forcément la sensation d'être un bon acteur à la base, mais voilà, un bon metteur en scène fait qu'il vous transcende. J'ai beaucoup travaillé, justement, comme vous dites, sur l'incarnation d'un personnage, parce que quand on est un chanteur, j'ai choisi ce métier pour chanter de la musique que j'aime, pas forcément pour incarner des personnages. Donc ça, il m'a fallu du temps pour apprendre à incarner un personnage comme celui d'Orphée. Finalement, il faut pas forcément essayer d'être quelqu'un d'autre, il faut essayer de vivre les sentiments que traverse le personnage de la façon la plus honnête possible. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de Robert Carsen, c'est qu'on évite effectivement peut-être ce que ne voulait pas Gluck, c'est-à-dire une suraffectation des personnages, essayer de trouver quelque chose qui semble réel. Voilà, c'est un opéra qui parle aussi, on pourrait dire avant tout, de la perte d'un être cher. Et c'est ça peut-être qui touche encore de nos jours, dans ce mythe, beaucoup de gens.
Orphée, l'homme qui cède à la tentation. Nouvel extrait du disque, puisque la pièce sera à voir que dans quelques jours au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Du disque Orfeo ed Eurydice de Gluck, sous le label Erato, qui paraîtra demain, sortira dans les bacs, ici en duo, avec Amanda Forsythe qui est Eurydice et Diego Fasolis à la baguette, Philippe Jarouski. C'est une version napolitaine de cette opéra du 18e. Il y a des versions parisiennes, il y a des versions... Comment on peut comprendre la différence entre toutes ces versions?
Et d'ailleurs, pour le spectacle, on revient à la version de Vienne, qui est la version originale, alors, en italien, toujours. Il y a eu des versions, même Gluck a fait une traduction en français, il y a une traduction en allemand aussi. On peut dire que c'est un des opéras les plus remaniés. C'est un opéra qui a eu un succès immédiat dès sa création et qui a été repris par finalement beaucoup de chanteurs, beaucoup de productions différentes. Et en fait, à l'époque, on n'hésitait pas à remanier. Au besoin, la partition n'était pas quelque chose de figé à l'époque et on pouvait rajouter des airs, rajouter des personnages. Il y a des versions d'Orphée qui durent 3-4 heures, même avec des personnages de Pluton, de dieux. Nous, on est revenu à la version originale pour le spectacle. parce que évidemment elle est la plus épurée. Pour le disque, moi j'ai enregistré cette version napolitaine qui est un tout petit peu plus aiguë que la version originale, et toute la scène Eurydice a été un peu réécrite. Il y a de la musique nouvelle et je trouvais que c'était intéressant finalement de proposer au disque une version qui n'a pas encore été enregistrée pour compléter un peu une discographie qui est déjà assez grande.
Dans ce livret de Gluck, tout repose très largement sur les épaules d'Orphée que vous interprétez, Philippe Jarouski. Katie Mitchell, la metteur en scène avec qui vous avez travaillé sur le Alcina d'Handel à Aix avec Patricia Petitbon en 2015, nous disait récemment autour de cette grande table la nécessité, selon elle, de réécrire les mythes, et notamment celui d'Orphée et Eurydice, du point de vue des femmes. Est-ce une bonne idée, tant qu'à remanier ?
I suppose in the case of many of these stories, we're looking at really, really old stories, thousands of years old.
La plupart des personnages que vous évoquez sont de grands mythes qui ont parfois des milliers d'années.
These old myths of Penelope or Eurydice.
Ce sont de très anciens mythes de l'humanité, Eurydice, Pénélope.
They live deep in the soil of our Western culture.
Toutes ces femmes, ces personnages sont vraiment enracinés dans le terreau culturel occidental.
And they still affect, I think, our behavior.
Et ces mythes continuent d'influencer notre comportement, je crois.
And then feminism is a really, really new movement. It's only 100 years old.
Et puis vous avez l'irruption du féminisme, qui est un mouvement extrêmement jeune, qui n'a qu'une centaine d'années à peu près.
It needs hundreds and hundreds of years.
Et qui se heurte à ces mythes millénaires. Et je crois, je vous le garantis, il faudra des centaines d'années pour vraiment changer tout ce tissu culturel et le terreau de ce qui nous fait, des mythes qui nourrissent l'humanité. Et voilà pourquoi il faut revisiter tout ce matériau très ancien, essentiellement misogyne. Mais ce qui est triste, tragique, c'est qu'au théâtre, on n'a pas assez de matériel qui traite de l'expérience féminine, parce qu'il n'y a pas encore eu assez de pièces écrites sur la femme. Je crois qu'il faut créer là un nouveau canon.
La metteur en scène Katie Mitchell, qui vient récemment de monter Schatten, Eurydice de Zagt, au Théâtre de la Colline à Paris. Vous pensez qu'il faut remanier aussi, en prenant un peu les considérations du 21e siècle en compte dans ces nouvelles versions ?
D'ailleurs, il faut se dire qu'Eurydice, au début, on sait qu'elle meurt d'une piqûre de serpent, donc comme Ève. Donc c'est vrai que c'est peut-être... Elle, la coupable, d'ailleurs, on pourrait dire que si Orphée se retourne, c'est peut-être parce que Eurydice, elle, doute de l'amour d'Orphée, parce qu'il ne peut pas se retourner pour la regarder, c'est la règle, quand il la récupère des enfers, et c'est cette persistance, cette insistance d'Eurydice qui va peut-être... provoquer ce doute chez Orphée. Mais le personnage d'Eurydice, quand même, déjà dans cette pièce, est quand même très très fort et très puissant. Notamment, évidemment, Katie Mitchell parlait des rôles de femmes fortes. C'est vrai qu'on a fait Alcina ensemble avec Patricia Petitbon, où là, effectivement, on se rend compte que même déjà à l'époque baroque, on pouvait confier des rôles de femmes extrêmement fortes déjà à l'opéra seria. C'est vrai que Katie Mitchell fait beaucoup, notamment pour justement proposer des mises en scène qui offrent un regard différent justement sur le rapport femme-homme, et je trouve ça très intéressant. Oui.
J'aimerais qu'on parle un peu de transmission avec vous, Philippe Jarouski. Vous évoquiez tout à l'heure Robert Carsen, grand complice de William Christie, ensemble le responsable fondateur des arts florissants. On peut citer une autre figure qui est celle de Jean-Claude Malgoire, grand chef baroque décédé le mois dernier, oboïste de formation. Vous aviez enregistré ensemble Orfeo de Monteverdi en 2004. Il a toujours évoqué le baroque pour lui comme une forme de contestation aussi. Qu'est-ce que ça, la rencontre entre vous et Jean-Claude Malgoire vous a apporté ? Vous avez confiance, je crois, assez jeune.
Oui, je suis ravi qu'on puisse lui rendre encore hommage aujourd'hui. Il faut savoir d'ailleurs que le premier Orphée de Gluck que j'ai chanté, c'était il y a 11 ans, sous sa direction, à Tourcoing. Donc il m'a confié mon premier Orphée de Gluck, que je n'ai pas rechanté depuis. J'ai fait beaucoup de premières avec lui. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas à confier à un jeune chanteur des grands rôles. Et finalement, c'est là où on peut se former. Donc il avait une confiance dans les ressources qu'on peut avoir même quand on est jeune. Et ça, ça m'a apporté tout de suite, peut-être m'a fait gagner quelques années au niveau justement de l'expérience que j'ai pu avoir avec lui. Voilà, j'ai aussi, c'est aussi quelqu'un, comme vous dites, qui était un peu rebelle. Vous disiez punk tout à l'heure, mais effectivement, je pense que quand on fait du baroque, on est un peu rebelle. Et encore, je dois dire, faire du baroque, c'est essayer de comprendre peut-être plus profondément parfois certains aspects de phrasé, de musique, travailler sur un instrument d'époque, c'est remettre à plat justement, par exemple pour un instrumentiste, tout ce qu'il pouvait penser au conservatoire. Donc c'est vrai qu'il y a, encore un côté rebelle dans le fait d'être, comme on dit d'ailleurs peut-être avec une forme péjorative, être un baroqueux.
Et maintenant, même si vous êtes encore tout jeune, Philippe Jarouski, vous vous êtes mis en tête de transmettre à votre tour votre passion musicale, cette passion aussi pour le lyrique et le baroque, à travers une académie que vous avez fondée à la scène musicale, des formations qui sont pensées en complémentarité avec le conservatoire, à la Philharmonie. D'ailleurs, la semaine prochaine, Françoise Nyssen avec Laurent Bayle présenteront la nouvelle ambition nationale du projet Demos et du plan Tous musiciens d'orchestre pour l'éducation artistique et musicale des plus jeunes. Vous trouvez qu'aujourd'hui, cette éducation musicale est encore trop marginale, trop minorée, trop méprisée presque parfois en France, dans l'apprentissage?
Oui, je suis très heureux que la ministre prenne ce dossier à bras-le-corps. Je trouve ça... Oui, j'ai trouvé, c'est pour ça d'ailleurs que je trouve encore que effectivement la pratique de la musique classique est encore réservée à une certaine classe sociale et qu'il faut évidemment l'ouvrir au plus nombreux. Je trouve que ça change. Je trouve que depuis quelques années, voilà, on se rend compte que la pratique instrumentale ou la pratique vocale du chant pour des enfants, par exemple, est quelque chose qui est très formateur. On s'est rendu compte notamment que des enfants qui commencent à étudier la musique, souvent leurs résultats scolaires se trouvent améliorés. Donc moi, je me suis lancé dans cette aventure parce que je ne faisais pas partie d'une famille de musiciens. Et j'avais envie de redonner cette chance qui m'a été offerte et il y a 20 ans, ou il y a 30 ans maintenant, de commencer la musique à d'autres. Et dans cette académie aussi, on soutient de jeunes talents qui se lancent dans la carrière de musicien professionnel. Donc c'est une très grande aventure qui a commencé cette année et qui, j'espère, va continuer pendant de longues années.
Et on pourra vous retrouver avec la promotion Mozart, celle de votre académie à la scène musicale. Ce sera le 30 juin prochain.
Exactement,
pour un concert final. On rappellera que vous êtes aussi un chanteur totalement éclectique, Philippe Jarouski, avec votre dernière participation à l'album L'Amomalie de Mathieu Chédid. Ensemble, vous avez notamment chanté aussi cet air, des airs qui vous emmènent parfois encore à l'Opéra de Paris, dans un opéra totalement contemporain, celui de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, qui a été mise en scène par Peter Sellers très récemment, Only the Sound Remains, avec une voix, la vôtre, qui a été tordue.
Elle a été transformée, disons.
Par ordinateur.
Ça, c'était une expérience magnifique par ordinateur, avec des retards, des résonances. C'était une expérience très très forte qu'on va reprendre d'ailleurs à l'Opéra de Madrid en octobre.
Voilà, il y aura aussi peut-être du jazz bientôt. Je sens que vous êtes avec votre passion de jazz, on vous retrouvera à un moment ou un autre.
Je ne suis pas sûr d'être un bon jazzman, mais on verra.
Philippe Jarouski, merci beaucoup d'être passé nous voir autour de cette grande
table. Merci à vous
de m'avoir
invité.
Donc, pour ceux qui passeraient par Paris, au Théâtre des Champs-Élysées très prochainement ou à Versailles. Et sinon, cet Orphée et Eurydice, le vôtre, est à écouter dans un album, un disque qui paraîtra demain chez Erato. Merci mille fois.
Merci à vous.